Donc, bonjour Evelyne Baudin, j'espère que ça va bien.
Oui, ça va bien toi?
Oui, ça va bien, merci. Donc, si tu veux, je peux te présenter un petit peu. Tu es originaire de Sherbrooke, tu es diplômée en maîtrise en économie. Tu es conseillère présentement municipale au district Carrefour dans l'arrondissement des Nations de la ville de Sherbrooke. Puis, tu es aussi cofondatrice et chef intérimaire du parti municipal de Sherbrooke Citoyen.
Oui, c'est ça. C'est plus intérimaire maintenant.
Ouais,
maintenant, c'est officiel, mais ça ressemble pas mal à ça. Effectivement, ma maîtrise, je l'ai faite ici à l'Université de Sherbrooke en économie.
OK, parfait. Puis peut-être une petite question d'entrée de jeu. Pourquoi as-tu décidé de te présenter comme candidate à la mairie?
Parce que j'aime beaucoup ma ville. J'aime Sherbrooke. Puis je trouve qu'on est un peu... Excuse-moi, on est un peu assis sur un trésor parce que notre ville est exceptionnelle. On a une ville qui est ni trop grande ni trop petite, qui est bien positionnée par rapport à Montréal, Québec et aux États-Unis. On a une super belle géographie avec des côtes, des arbres, des montagnes, des rivières. Puis on a surtout, je trouve, notre plus grande force, puis je dis pas ça parce que je suis en entrevue à l'université, mais je pense que notre plus grande force, c'est vraiment nos institutions d'enseignement supérieur. Il y a aucune autre ville de notre taille au Québec qui peut se targuer d'avoir une université complète comme celle de l'Université de Sherbrooke. Puis en plus, on a une autre université, puis trois cégeps.
Mm-hmm.
C'est... dans un contexte en plus de pénurie de main-d'œuvre où finalement notre plus grande richesse, c'est nos êtres humains. Avoir des institutions d'enseignement de cette qualité-là, pour moi, c'est un potentiel immense qu'on pourrait exploiter. Puis, ben, ça fait longtemps que je suis impliquée à Sherbrooke, ça fait longtemps que j'observe comment ça se passe à l'hôtel de ville. Puis, je trouve pas qu'on exploite notre plein potentiel. Puis, tu sais, je veux vraiment qu'on se réapproprie notre ville puis qu'on s'offre collectivement la ville qu'on mérite.
C'est très bien, en effet. Je suis totalement d'accord avec toi. Je le sais que l'étalement urbain, l'environnement, c'est vraiment des choses qui tiennent beaucoup à cœur. Donc, j'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi aujourd'hui. Fait que je peux commencer avec une question par rapport au logement. Donc, je peux te mettre un petit peu en contexte. Probablement que tu es au courant, là, mais juste pour les personnes qui vont nous écouter. Présentement, il y a plus de 60% des personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke qui consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement. Et selon la SCHL, à partir de 30% et plus, la situation peut mener à des risques de perte de logement parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de cette situation-là.
Bien, effectivement, je pense que tu fais bien de souligner là, l'indicateur qui est utilisé, c'est souvent... 30% quand on met au moins 30% de notre revenu juste pour se loger, mais on est dans une situation financière précaire qui fait en sorte que si on a un imprévu dans notre vie, on peut se retrouver dans une situation difficile à surmonter. Cette semaine, justement, on a dévoilé notre engagement chez Sherbrooke Citoyen de construire, d'accélérer la construction de logements abordables. On s'est dit que actuellement, là, les objectifs, c'est d'en faire à peu près 100 par année. Nous, on s'est dit qu'il fallait doubler ça en contexte de crise du logement puis y aller à 200 par année minimum pour les 5 prochaines années. Donc, 1000 nouveaux logements abordables. Les logements abordables, il y a des logements sociaux. Donc, faut comme se qualifier, avoir un certain revenu et tout ça. Et les étudiants ne se qualifient pas dans ces programmes-là.
Exactement.
Mais quand on parle de logement abordable, on parle aussi de logement communautaire. Les logements communautaires, c'est les coops, les OBNL, où les gens payent moins que le prix du marché conventionnel, mais en même temps, ils n'ont pas besoin de se qualifier là, dans les programmes du gouvernement pour le programme de supplément au loyer. Donc, moi, j'ai vécu en coopérative pendant une partie de mes études. Avant, il y avait aussi une coopérative qui était destinée spécialement aux étudiants qui étaient situés au centre-ville. Je pense qu'il faut vraiment considérer le logement étudiant comme un besoin spécifique puis accélérer la construction de logements communautaires pour les étudiants, donc coopératives au BNL. D'ailleurs, je ne sais pas si jamais il y a des gens qui sont à l'écoute puis que ça interpelle cette idée-là, il y a moyen de mettons que vous êtes dans un 6 logements, puis que vous connaissez un peu les voisins, tout ça, vous pouvez décider d'aller voir la Fédération des coopératives d'habitation puis leur dire, hey, nous, on aimerait ça se transformer en coopérative. Il y a des programmes gouvernementaux qui existent pour ça. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'à la place d'avoir un propriétaire à qui on paye notre loyer, ben, on paye notre loyer à une coopérative, puis on exclut la notion de profit, ce qui fait en sorte qu'on paye moins cher que le prix du marché, puis surtout à long terme. Mais il faut vraiment accélérer la construction de logements abordables, ce qui va avoir un double effet à la fois pour les nouveaux logements construits, mais aussi, puis là, je parle, je ne sais pas si tu as suivi ton cours d'introduction à l'économie déjà.
Non, je vais l'avoir la session prochaine cet hiver. Okay. Là, ouais.
Parce que je l'ai déjà donné, je suis chargée de cours aussi à l'université.
Okay.
Donc, en économie, on parle toujours de l'offre et de la demande. Tu as sûrement entendu parler de ça déjà au cégep. Quand on augmente la construction de logements, on augmente l'offre. Et quand on augmente l'offre, on fait diminuer le prix du marché.
Absolument.
Alors, c'est la seule solution à long terme, si on veut contenir le prix de nos loyers, c'est d'accélérer la construction.
Parfait. Et je vois que c'est ça. Je vois que c'est vraiment, ça semble vraiment important pour toi. Là. Puis en effet, là, si je parle comme étudiante, là, puis en plus d'être à la FIRST, nous, on a toutes les répercussions des personnes étudiantes. On entend plusieurs échos de partout. Puis je veux dire, juste pour la rentrée, là, ça a été une problématique. Les personnes à l'international, puis tout ça, là, c'était vraiment un grand enjeu. Il y a un autre enjeu qui touche beaucoup les personnes étudiantes, qui est le transport en commun. Je parle entre autres de la STS. Est-ce que vous voyez une pertinence par rapport à une personne étudiante qui pourrait siéger sur le conseil d'administration de la STS? Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de ça.
Pour moi, c'est évident parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais si je me rappelle bien les chiffres, là, 70 % de tous les transports faits dans la STS, c'est du transport étudiant, cégep et université. Là.
Ouais.
Donc, évidemment qu'il faut avoir un poste étudiant, puis il faut vraiment faire valoir les intérêts des étudiants auprès de la STS. Néanmoins, la STS, pour y siéger moi-même, là, je siège sur le conseil d'administration, je vous avoue, c'est pas ce qu'on s'imagine. Quand on arrive là, les questions, c'est comme, OK, il faut acheter des autobus, il faut gérer les conventions collectives avec les chauffeurs, il faut voir au niveau de la mécanique, les ateliers mécaniques et tout ça. Donc, les questions qui intéressent le plus les étudiants, je crois que c'est les questions d'usagers et usagères.
Oui.
Il faudrait probablement voir à avoir un comité des usagers, usagères qui soit plus actif, plus vocal, oui, qui se fait entendre davantage, puis dans lequel les étudiants prendraient une place importante. Et l'autre chose, c'est que à la ville, on devrait, je parle, tu sais, la STS puis la ville, ça va ensemble, mais c'est quand même séparé. Puis à la ville, on n'en parle quasiment jamais de la mobilité. À chaque fois qu'on a une question qui concerne la mobilité, qu'on parle d'autobus ou de piste cyclable ou autre chose, on relègue ça presque tout le temps à la STS. Ce qui fait que je trouve que la ville de Sherbrooke n'assume pas suffisamment sa responsabilité en matière de mobilité. Alors que, il y a beaucoup à faire en matière d'autobus, mais il y a aussi beaucoup à faire en matière de transport actif, notamment le vélo, parce que ça demande des infrastructures particulières pour le vélo si on veut pouvoir se sentir en sécurité. Puis, dans une ville comme Sherbrooke, où il y a beaucoup de côtes, j'ai vraiment l'impression, moi-même, je suis propriétaire d'un vélo électrique. Et puis en plus, l'université est située comme sur une montagne, pratiquement.
Oui.
Alors, de miser sur le vélo électrique, mais l'affaire, c'est que le revenu étudiant ne permet pas nécessairement de se procurer un vélo électrique.
C'est assez dispendieux, oui.
Donc, d'avoir une flotte de vélos électriques en libre-service à Sherbrooke, je pense que ce serait quelque chose de vraiment intéressant parce que l'autobus, j'ai l'impression que ça sert pour nos principaux déplacements comme vers le travail, vers l'école. Mais tous les autres petits déplacements qu'on va faire pour aller faire du sport, pour aller visiter des amis, quand on est en dehors des heures et tout ça, il faut une alternative qui est plus flexible que l'autobus. C'est pour ça qu'il faut vraiment miser sur un ensemble de transports, tu sais. Puis l'autopartage aussi, il n'y a pas suffisamment de véhicules en autopartage sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Si on offre des autobus de ville, pourquoi on n'offrirait pas aussi davantage d'auto en libre partage et les vélos en libre service et un meilleur réseau d'autobus, notamment pour quand il ne fait pas beau? Tout ça mis ensemble, c'est ce qui va nous permettre de nous débarrasser de notre dépendance, de réduire notre dépendance à l'automobile individuelle. Et à Sherbrooke, je vous dirais que le gros défi, c'est de s'attaquer à la deuxième voiture. Mm-hmm. En premier, là, si déjà dans un ménage, on n'était pas obligé d'avoir une deuxième voiture, pour Sherbrooke, ce serait un gros plus.
C'est un grand facteur d'appauvrissement, la voiture, habituellement. Là.
C'est le premier facteur d'appauvrissement. Dans les ménages, c'est l'automobile qui y arrive une réparation, une panne, quelque chose. C'est de s'attaquer, ben en fait, les deux sujets dont on a parlé, le logement et l'automobile, le transport, c'est les deux premières lignes dans le budget. Donc, on vient directement aider aux revenus disponibles des gens quand on fait des gestes importants, quand on pose des gestes importants dans ces domaines-là.
Puis, je suis contente de te demander la question par rapport au vélo électrique, mais par rapport aux pistes cyclables, est-ce que tu avais un projet, tu sais, je veux dire, moi, je fais beaucoup de vélo, puis j'aime bien les pistes cyclables à Sherbrooke, mais elles ne sont pas très utiles pour aller à un endroit spécifique. C'est plus une balade. Est-ce que tu avais un projet par rapport à se rendre plus facilement d'un bout de ta ville, d'un bout à l'autre de la ville ou quelque chose dans le genre?
Je pense qu'il faut effectivement investir. Ben, je pense qu'il faut investir dans les deux, à la fois dans le récréatif, parce que je suis convaincue que le vélo, c'est c'est celui qui présente le plus grand potentiel touristique dans l'avenir. Maintenant, les gens vont visiter des régions pour profiter du vélo, puis quand on est à vélo, on consomme davantage dans les commerces locaux et tout ça. Mais bon, ça, c'est pour l'aspect récréatif. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là, mais il faut le distinguer effectivement de ceux qui font du vélo pour, en anglais, ils disent « commute », mm-hmm. mais en français, disons, à se rendre au travail, à l'école et tout ça. Donc, le vélo utilitaire. Puis, moi, je l'utilise, mon vélo, comme véhicule utilitaire, sport. Et je constate, tu sais, il faut arrêter de construire des rues sans réfléchir à ça. Il faut que ce soit un réflexe systématiquement dans toutes nos rénovations majeures de rues et dans toutes nos constructions de nouvelles rues. À terme, mon rêve, ce serait qu'il y ait des pistes cyclables utilitaire, sécuritaire sur toutes les grandes artères de Sherbrooke, excepté les autoroutes, évidemment. Oui. Mais, tu sais, vu que c'est un véhicule, on veut avoir les voies qui sont les plus directes, les plus rapides, et c'est celles qui sont utilisées par les autos. Et souvent, c'est des endroits où on n'a pas besoin d'avoir de stationnement parce que c'est des routes qui sont utilisées pour rouler, là, tu sais, pour se rendre rapidement du point A au point B. Puis, en fait, on n'a pas besoin de pistes cyclables dans les rues qui sont secondaires parce qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité autant. Et même, en fait, dans un autre monde idéal, ce serait même pas sur les artères principales, ce serait parallèle puis hors route. Je ne sais pas à quel point on va se rendre là, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit... On a un plan directeur du transport actif à Sherbrooke, mais il commence à dater, puis il n'a pas été appliqué autant qu'on voudrait. Donc, il faut remettre ça comme priorité parce qu'avec, en ce moment, là, dans les magasins de vélos, là, ce qui se vend le plus, c'est les vélos électriques.
Ah oui.
Puis, à Sherbrooke, il y a un gros potentiel. Donc, je suis convaincue qu'il faut miser là-dessus davantage.
Avec les côtes, là, comme on disait.
Ouais.
Parfait. On va passer à l'autre sujet, l'environnement, évidemment. C'est un enjeu vraiment principal. Est-ce que tu avais des projets concernant la densification urbaine qui pourraient aider, comme on disait, à minimiser les déplacements en voiture?
Oui. Ouais. Je veux profiter du micro qui m'est offert aujourd'hui pour insister sur le fait que l'environnement, c'est au municipal que ça se passe. Si vous vous sentez interpellé par les enjeux environnementaux, investissez-vous dans votre communauté, dans votre ville. Parce que c'est les villes qui, comme tu le dis, décident de l'aménagement du territoire. Ce qui fait en sorte que quand on est le responsable, le gouvernement responsable de l'aménagement du territoire, c'est nous qui avons le plus grand impact pour la protection des milieux naturels, des milieux humides, les bandes riveraines, la mobilité, les commerces de proximité, le fait de créer des milieux de vie qui sont durables, c'est des choses qui se passent au municipal. Puis ça, c'est sans compter les autres enjeux environnementaux, comme les matières résiduelles, les gaz à effet de serre, l'électrification des transports, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent au municipal. Puis effectivement, limiter l'étalement urbain, ça devrait être une priorité, surtout dans une ville comme Sherbrooke, qui est en croissance et qui est dans la région au Québec. Le sud du Québec, c'est l'endroit au Québec où il va y avoir dans les 50 prochaines années le plus de pression sur nos forêts. Oui. Si on ne limite pas l'étalement urbain, un jour, Sherbrooke va grossir, Magog va grossir et tout va se recouper et il n'y en aura juste plus de forêts. Il faut donc, dès maintenant, mettre en place des gestes significatifs. Il y a déjà plusieurs années, je pense que ça doit faire au moins 10 ans, sinon plus, la ville s'était donné comme objectif de protéger légalement avec des outils reconnus 12% de son territoire. C'est pas encore fait. Puis en fait, souvent, malheureusement, à la ville, on se donne des objectifs, mais on se donne pas les moyens de les atteindre. Mm-hmm. Comme, tu sais, on est aussi ville alliée contre la violence conjugale. On a signé l'alliance Ariane contre l'étalement urbain. On aime ça, tu sais, c'est joli, là, adopter des motions comme ça à l'hôtel de ville. Mais après ça, il faut se mettre en action parce que sinon, c'est juste des belles paroles. Pour la densification, il faut se donner premièrement un objectif plus ambitieux parce que 12% c'est pas suffisant. Puis ensuite, il faut adopter une stratégie pour atteindre cet objectif-là. Par exemple, le boisé Ascot-Lennox. C'est quand vous regardez la carte de la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke est divisée en un tiers. Un tiers c'est urbain, un tiers c'est rural, puis un tiers c'est forêt. Notre territoire. Dans le tiers urbain, il ne reste plus beaucoup de forêts. Il reste le Mont-Bellevue, où on a d'ailleurs l'Université de Sherbrooke qui est impliquée dans la réserve naturelle du Mont-Bellevue. On a le bois Beckett, puis il reste cette étendue-là de boisé qui est en arrière de l'école du Fort, en arrière de l'ancien bunker des Hells, puis Lennoxville. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça, là, parce que les milieux naturels qui sont dans les milieux urbains sont ceux qui subissent le plus de pression des promoteurs immobiliers qui cherchent à maximiser leurs profits constamment. C'est normal, c'est des entreprises privées. Mais de l'autre côté, les gens nous demandent d'avoir accès à des sentiers, à la nature, proche de chez eux. Tu ne veux pas aller prendre ton auto pour pouvoir aller...
Non, c'est comme contradictoire. Oui, c'est ça.
Donc, donc ce boisé-là, notamment, pour moi, c'est celui qui est dans la mire. C'est le prochain qu'il faut faire quelque chose pour ça. Et ensuite, il faut s'assurer de conserver la ceinture verte qui est autour de la ville de Sherbrooke, qui sert de corridor faunique, qui sert à protéger des espèces menacées, qui sert à avoir un poumon, finalement, pour le sud du Québec puis avoir une bonne qualité de l'air.
Mm-hmm. J'aime ça. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça être dans la forêt. Là, je trouve ça vraiment important. Là, donc, c'est très bien.
C'est ça aussi. Ben, en fait, je vais juste continuer.
Vas-y.
Petit peu. Parce que tu m'as amené sur le sujet de la densification. Oui. Tu sais, limiter l'étalement urbain, ça va être d'accepter qu'il faut construire la ville par-dessus la ville. Puis je sais que ça peut avoir l'air particulier, mais en tout cas, il y a de l'espace encore en ville. Il y en a des terrains vagues non construit, il y a énormément de stationnement de surface.
Oui, ça c'est vrai, oui.
Je pense par exemple, tu sais, moi je représente le district du Carrefour. Le stationnement du Carrefour n'est jamais à pleine capacité, à part des fois un petit peu, peut-être le 24 décembre. Même chose, les galeries 4 saisons, je pense que c'est encore pire. Le stationnement, c'est une immense mare d'asphalte. Et donc, si on veut un jour réussir à contenir l'étalement urbain puis protéger tout ça, va falloir, parce que le Sherbrooke, comme je dis, continue à croître en termes de population. Il va falloir qu'on construise la ville par-dessus la ville, qu'on ait des quartiers qui soient plus denses, plus agréables. c'est difficile. Moi, je viens, j'ai grandi dans un quartier de bungalow, puis en ce moment, je suis propriétaire d'un bungalow dans un quartier de bungalow. Mais la vérité, c'est que on pourrait construire notre ville autrement. Quand on regarde à Montréal, c'est quoi le quartier le plus en vogue? C'est le quartier le plus dense. C'est le plateau Mont-Royal. C'est là, puis c'est pas dense à cause qu'il y a plein de tours à condos luxueux de 50 étages, là. C'est dense parce que les logements sont rapprochés les uns des autres. Il y a des cours arrière. Les rues sont plus étroites. Il y a du commerce de proximité, accessible à pied, en vélo. C'est ce genre de quartier-là. On dirait qu'on a arrêté de les construire, ces quartiers-là. Alors que c'est ceux qui sont les plus en demande, puisque c'est ceux qui ont le prix le plus élevé. Le prix est indicateur de la demande. En tout cas, du moins d'un déséquilibre entre l'offre et la demande pour ces quartiers-là. Il faut construire des milieux de vie. Puis en ce moment, ce qu'on fait, c'est que le milieu de vie est souvent dans une espèce de centralité. Des fois, on a plus qu'une centralité, mais il y a une centralité où on a un milieu de vie. Puis après ça, on construit du dortoir autour ou bien on sépare trop les usages. D'un côté, juste du résidentiel. Après ça, juste du commercial. Moi, dans mon district, c'est l'illustration parfaite. Il y a des quartiers 100% résidentiels de bungalows comme là où j'habite, où je ne peux pas vraiment aller m'acheter une pinte de lait à pied. Il y a le plateau Saint-Joseph puis le Carrefour, que c'est juste du commerce, que tu peux seulement y aller en voiture ou à peu près. Puis, il y a le quartier industriel où tu as toutes les industries qui sont dans leur coin puis que les travailleurs, ils vont puis ils retournent chez eux le soir. À un moment donné, on va avoir plus de défis. La densification, parce que ça fait qu'on est tous plus proches les uns des autres. Puis là, quand tu as des voisins plus proches puis qui font pas la même chose que toi, ça amène des défis. Mais on n'aura pas le choix de les affronter, ces défis-là, si on veut pouvoir surmonter les enjeux du 21e siècle.
Puis ça, je veux dire, tous les sujets qu'on parle depuis tantôt, ça se rejoint tout. Là, comme tu parlais du Carrefour, le stationnement n'est pas utilisé, c'est encore pire depuis la pandémie. Il y a encore moins de monde qui vont magasiner. Puis si les gens prennent plus l'autobus, ben moins de voitures, fait qu'il y a raison de plus pour faire autre chose que ce qu'on fait là avec les stationnements qui ne sont pas utilisés. Donc, ça fait du sens là, ensemble, ouais. Là, quand on y pense. Là.
Mondialement, il y a plus de gens, depuis quelques années, ça fait pas très longtemps, mais il y a plus de gens qui vivent dans les villes que dans les campagnes à travers la planète entière. Okay. Les solutions à tous nos problèmes de société doivent passer par les villes. Qui vont jouer un rôle majeur. Parce qu'on a beau se fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre avec des protocoles internationaux, si les actions ne descendent pas, puis voient pas, se concrétisent pas dans les communautés, ça va rester des vœux pieux. Mm-hmm. Il faut que ça passe par les communautés, le changement. Puis même à l'intérieur de la ville de Sherbrooke, il y a plus qu'une communauté qui vivent toutes des réalités différentes, mais c'est là qu'est l'avenir. Tu sais, mon message, c'est au municipal que ça se passe. Moi, c'est quelque chose... Quand j'étais étudiante, j'étais impliquée en politique, mais pas vraiment au municipal. C'est quelque chose depuis 10 ans qui prend forme, là, puis que je suis de plus en plus convaincue, c'est que c'est là qu'on a le plus grand impact comme citoyen et citoyenne. Quand on est quelqu'un... quand l'environnement nous tient à cœur, souvent, on se sent impuissant. On ne sait pas comment, par où commencer, tout ça. Commencez par essayer de sauver un boisé à côté de chez vous. Dans les 4 dernières années, chez Sherbrooke Citoyen, on a sauvé un parc qui était supposé être vendu pour la construction d'une habitation unifamiliale, qui était en bordure de la rivière Saint-François. Donc, ça a été des citoyens qui se sont mobilisés, là. Donc, on a sauvé un parc, puis on s'est investi aussi pour le dossier du chemin Réaume, qui était un promoteur immobilier qui voulait construire 50 maisons dans un milieu naturel à très haute valeur écologique. Puis, les citoyens se sont mobilisés, sont allés en cours. Ils ont gagné en cours contre la ville de Sherbrooke. Puis, finalement, ils ont sauvé l'équivalent d'une vingtaine de terrains de soccer qui n'ont pas été déboisés. Ça, je veux dire, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir quand tu es quelqu'un qui a des convictions écologistes. Tu as eu un impact directement dans ton milieu. Les arbres, tu peux aller les voir, tu peux aller les toucher. Tu le sais que si ces arbres-là sont encore là, c'est grâce à ton action. T'sais.
Mais oui, tu vois, on voit le changement concret. Là. Je veux dire, c'est le fun d'avoir du progrès. Comme tu dis, si tu te présentes maintenant pour le provincial, peu importe, ça devient gros comme enjeu. Tandis que municipal, ben justement, les avancements souvent sont plus rapides ou plus accessibles. Puis si je comprends totalement, là, c'est vraiment... C'est vraiment bien. Sinon, j'avais un autre sujet par rapport à l'environnement. par rapport au tri à la source.
Oui.
Ouais, concernant la gestion des matières résiduelles, est-ce que vous avez pensé à une façon d'améliorer les performances du tri à la source?
OK. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne à la ville de Sherbrooke en ce moment. On a 3 bacs d'habitude. Dans les multilogements, en plus, c'est encore plus... ouais. En tout cas. On va dire, là, en général, on a 3 bacs. Le bac noir, les poubelles, ça s'en va chez Valoris. Le bac vert ou bleu, le recyclage, s'en va chez Récupestrie. Puis le bac brun de compost s'en va chez Englobe. Chez Valoris, le bac noir... Mais premièrement, l'existence même de Valoris, moi, je n'ai pas décidé que ça existe, Valoris, puis je suis pas mal certaine que je n'aurais pas été super favorable à ça. Je ne sais pas si vous savez, mais le concept de Valoris, c'est avoir une usine de tri ou sur un site d'enfouissement. Donc, quand ils reçoivent les bacs noirs, théoriquement, ils trient pour vous, là, ce qui est encore réutilisable dans votre bac noir. Ils essayent de le revendre, puis le reste, ils l'envoient à l'enfouissement. Le problème avec ça, c'est que ça envoie un mauvais message à la population. Mm-hmm. Puis deuxièmement, à date, là, ça n'a pas été rentable. En fait, les lignes de tri ne fonctionnent pas depuis 2014, je pense. Là.
Okay.
Donc, on a payé un centre de tri à peu près 40 millions de dollars et il ne fonctionne pas depuis à peu près 7 ans. Donc,
puis le mauvais message que tu veux dire que ça envoie à la population, c'est que les gens n'auraient pas besoin de trier dans les autres bacs, là, c'est ça?
Quand tu sais que ton bac noir va être trié, ben tu te forces moins.
C'est ça.
Okay. Moi, j'ai l'impression.
Ben oui, certainement. Okay.
Donc, à la base, là, d'avoir... Puis là, le problème, c'est qu'on a le doigt dans l'engrenage là, jusqu'au coude puis plus loin là, parce qu'on a payé 40 millions puis on peut pas juste faire comme si ça n'existait pas. Là. Il y a des créanciers qui veulent avoir leur argent. Là. Après ça... Le bac vert chez Récupestrie, le système, comment il fonctionne, c'est que Récupestrie reçoit des redevances du gouvernement du Québec en fonction de la quantité de matière qu'ils reçoivent au poids. Alors, eux, le tri à la source, là, ça ne les intéresse pas tant que ça. Ce qu'ils veulent, c'est du volume. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la structure de tarification, si on peut dire, ou les subventions sont construites. Alors, dans quoi ils veulent investir? Des tris optiques, des machines qui vont faire du tri mécanisé, puis qui vont trier pour toi le papier, le carton, tout ça. Le problème là-dedans, c'est que quand on met toutes nos matières dans un seul bac, il y a nécessairement de la contamination. Il y a nécessairement... Mais moi, quand j'étais petite à Sherbrooke, là, on triait hein, dans le bac vert. Là, il y avait le sac en papier qui contenait le papier. Il y avait le verre qui était séparé. Tout était
séparé.
Mais c'est
supposé être comme ça, en fait.
C'est ça.
C'est ça, oui.
Mais ils ont décidé, à un moment donné, de dire il n'y a pas assez de monde qui font du recyclage. On va mettre ça au plus simple.
Mm.
On va viser là, la plus grande participation possible de la population au recyclage. Fait que, c'est vers ça qu'on est allé. Là, j'ai l'impression qu'on serait dû pour aller à l'étape suivante. Là. Déjà, on a installé des bacs de récupération du verre dans différents endroits à Sherbrooke pour ceux qui veulent aller les déposer là. On a aussi la possibilité d'aller dans les éco-centres porter différents objets qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent à l'enfouissement, qui peuvent être recyclés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Moi, je trouve qu'à l'éco-centre, on pourrait faire une collaboration beaucoup plus grande avec ce qu'on appelle les organismes de réemploi. Les organismes de réemploi, c'est Estriade, le comptoir familial, Partage Saint-François, Renaissance, ce genre d'endroit-là, pour que ce soit facile, tout ce qui est réutilisable, récupérable, qui puisse l'être. Déjà, en termes de tri à la source, d'habitude, c'est pas ça qu'on parle, mais tu sais...
Non, mais ça aussi, c'est important. Là.
C'est ça, de réduire le nombre de matières qui s'en va vers leur dernier...
dernier souffle.
Leur dernier souffle, ouais, on pourrait dire ça de même. Puis ensuite, ben, le tri à la source, je ne pourrais pas dire exactement quelle forme ça pourrait prendre. Est-ce qu'on met des bacs davantage dans les quartiers? Est-ce qu'on offre d'autres possibilités aux gens d'aller trier à la source puis que là, on puisse avoir de la matière de meilleure qualité qui pourrait se vendre plus cher puis donc se rentabiliser? Je sais pas. Ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir vraiment réfléchir avec la population parce que c'est avec tu sais, c'est eux qui vont...
Et ça prend une collaboration, là. C'est eux qui le font en bout de ligne, là. Ouais.
Exact. Je comprends. On est obligé d'adopter à chaque temps d'année un plan de gestion des matières résiduelles. En 2022, on va en adopter un nouveau. Puis pour ça, ben, ça va être important de... C'est à ce moment-là là, qu'il faut inscrire dans notre plan des gestes importants puis de le faire en collaboration après avoir fait des consultations auprès de la population.
Parfait, parfait. Puis j'avais un dernier sujet qui est... ça concerne moins directement les personnes étudiantes, mais en bout de ligne, c'est l'argent de la ville. Là, donc, mm-hmm. ça revient tout au même. Les crédits de taxes. Je me demandais, quand il y a une vente pour un terrain industriel présentement, est-ce que tu trouves que les terrains sont vendus au juste prix et que les crédits taxes sont octroyés de façon rentable?
Ah, je suis tellement contente que tu me parles de ce sujet-là. Puis là, je reconnais l'étudiante en finance en toi. Les municipalités, la principale source de revenus qu'on a, c'est les taxes foncières. Et donc, si on veut, c'est notre meilleur outil pour inciter des affaires, c'est les crédits de taxes. C'est des congés de taxes qu'on donne à certaines personnes. Puis, on entend surtout parler des crédits de taxes aux industries parce que c'est les plus importants. Mais on a aussi des programmes de crédits de taxes, par exemple, pour construire la revitalisation au centre-ville. Fait que si tu décides d'aller construire du logement au centre-ville, tu as des possibilités de crédits de taxes. Il faut vraiment se questionner et utiliser ça avec parcimonie pour s'assurer qu'on incite les comportements qu'on veut avoir. Le problème du programme de crédit de taxe industriel à la ville, c'est qu'on dirait que le but, c'était juste de vendre le plus vite possible tous les terrains à n'importe qui. Il y avait comme pas de discrimination, là. Que tu sois une super entreprise d'avenir, technologie verte, ou que tu sois quelque chose de très traditionnel, tu avais un crédit de taxe. Juste pour comme. C'est comme si tu nous faisais une fleur de venir acheter un terrain. Puis ça vient du fait que, bon, tu sais, je veux dire, les politiciens, combien de fois ils disent comme ah, nous, on va créer des emplois, puis là, ils font des coupures de ruban, puis on a plus de terrain dans le parc industriel, c'est extraordinaire, on a réussi à tout passer ça, on va pouvoir ouvrir un nouveau parc industriel. Tu sais, c'est ça comme l'espèce de tendance chez beaucoup de politiciens. Donc. Et là, la ville de Sherbrooke, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était les plus généreux au Québec.
Oui, exactement.
C'était genre 100% de congés de taxes pendant 10 ans, alors que dans les autres villes, c'était, mettons, 100% 5 ans, après ça, dégressif, ou dégressif 10 ans, ou dégressif 5 ans. Il n'y avait personne qui avait un crédit de taxe aussi généreux que la ville de Sherbrooke. Et là, ce qu'on leur avait dit, c'est comme, voici là, les paramètres du programme de congés de taxes. Puis, vous avez le droit d'en octroyer jusqu'à 28 millions de dollars sur 10 ans. C'est ce qui avait été dit. Et là, on est arrivé comme à peu près à la 8e année. Puis on fait comme, oups, il y a eu un petit manque de suivi sur le programme. On a un petit peu dépassé le programme de crédit de taxe. Puis on a fait, OK, de combien vous l'avez dépassé? De combien vous avez fait des promesses à du monde au-dessus de ce qui vous était autorisé de 28 millions? Puis on dit, ben, on s'est rendu à 74 millions. Fait que ça, là, ça, c'est 46 millions de dollars de moins dans les coffres de la ville pour tout remplir les responsabilités de la ville de Sherbrooke, là. Et on parlait de pistes cyclables, on parlait de centres de tri, tout ça. 46 millions pour une ville dont le budget tourne autour de 400 millions de dollars par année, c'est gigantesque, c'est monumental. C'est la plus grosse erreur que j'ai vue à la ville de Sherbrooke dans les 4 dernières années. L'affaire, c'est que aussi les villes sont en compétition les unes avec les autres. Hein? Puis c'est une course vers le bas, là, qui sait qui sacrifie le plus ses finances publiques pour l'industrie. Mais il ne faut pas embarquer là-dedans. On a autre chose, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on a autre chose à offrir à Sherbrooke que de l'argent. On est capable de mettre en valeur nos plus grandes forces, que sont notre main-d'œuvre spécialisée, notre dynamisme, nos paysages, nos milieux de vie. Tu sais, les gens qui viennent travailler à Sherbrooke, c'est parce qu'ils aiment la qualité de vie. Je veux dire, sinon tout le monde irait travailler en Alberta dans le pétrole, là, si c'était juste pour avoir des jobs. Là.
Exactement.
Non, oui. Les gens viennent s'installer ici pour une job. On dit tout le temps, l'emploi attire, le milieu retient. Le milieu retient, ça, ce bout-là de la phrase, c'est la responsabilité de la ville de Sherbrooke. Donc, moi, des crédits de taxes comme ça, donnés à gauche, à droite, sans discrimination, je pense que j'espère que c'est chose du passé. Ce qu'il faut faire, c'est se demander qui est-ce qu'on veut attirer à Sherbrooke comme type d'entreprise qui va ajouter quelque chose à la communauté, que son rayonnement va aller au-delà de sa seule entreprise. Puis, il faut aussi se questionner par rapport à nos autres programmes de crédits de taxes. Tantôt, on parlait de logement. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des crédits de taxes pour du logement abordable aussi, pas juste pour les industries? Des programmes de crédits de taxes aussi pour avoir du commerce de proximité. Il y a, je trouve, à Sherbrooke, une pénurie de dépanneurs. Des petits commerces d'alimentation accessibles dans les quartiers. C'est ça aussi qu'il y a au plateau Mont-Royal. Là, des rues quadrillées avec des dépanneurs au coin de rue, des artères commerciales vivantes, puis des parcs, des arbres, des rues denses. C'est ça que les gens recherchent. C'est ça qu'on doit offrir. Et notre fiscalité, c'est notre principal outil incitatif. Puis là, bon, c'est l'économiste en moi qui ne peut pas s'empêcher, mais au municipal, notre principal outil, c'est les taxes foncières. Utilisons ça pour encourager les bons comportements, puis peut-être aussi pour décourager les mauvais comportements.
Oui, puis les crédits de taxes, en soi, c'est pas mauvais, parce que je veux dire, il y en a des entreprises qui en ont besoin pour débuter, tout ça, ça peut être bien, c'est juste la redistribution qui a été vraiment mauvaise. Puis oui, en effet, quand j'ai lu ça, j'étais totalement étonnée, sur le coup, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de lire en ce moment? Mais oui.
C'est surréaliste. Oui. Quand tu dis ils devaient donner maximum 28 millions, puis ils ont dépassé de 46 millions, puis moi, je vous dirais, pire que ça, il n'y a personne qui a perdu son emploi à la ville de Sherbrooke par après. Là.
Ouais,
y a moi, je n'ai pas vu personne se faire taper sur les doigts pour avoir fait une erreur de 46 millions de dollars. Je trouve pas ça normal. Oui. Ça vient nous faire réfléchir aussi sur la qualité de la gestion dans une ville de 2000 employés, de 400 millions de dollars. Tu dis, s'il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en arrière? C'est quoi les autres affaires qu'il y a en arrière? Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être pas... Tu sais, on fait pas campagne nécessairement en politique sur de la bonne gestion, mais c'est nécessaire. La gestion responsable, c'est de planifier. Puis quand tu planifies, ça t'aide à prendre aussi des meilleures décisions en matière environnementale, par ailleurs. Fait que de planifier, il faut faire des choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas dire oui à tous les projets. Il faut faire des choix. Après ça, il faut consulter les gens parce que c'est leur taxe puis que c'est leur milieu de vie. Puis de toute façon, souvent, les gens, ils demandent des choses qui coûtent moins cher que ce qu'on pense leur offrir, en plus. Puis après ça, ben il faut qu'il y ait de la reddition de comptes. Puis il faut qu'il y ait les bonnes personnes aux bonnes places. C'est une bonne santé organisationnelle qui va nous permettre après ça d'optimiser nos ressources, que ce soit nos ressources humaines qu'on ne veut pas faire travailler sur des choses qui ne servent à rien, que ce soit nos ressources financières qu'on veut qui servent à faire avancer les dossiers qui sont importants pour les gens de Sherbrooke. Parce que ce n'est pas infini ce qu'on a. On a un budget, comme je disais, de 400 millions par année en opération. On peut investir, on peut s'endetter pour des gros investissements pour environ 70-75 millions de dollars par année. Donc, nécessairement, à un moment donné, il faut faire des choix. Est-ce qu'on choisit de rénover un bâtiment ou est-ce qu'on choisit de construire un nouveau bâtiment? Puis, quand on planifie, ça veut dire que quand on construit un nouveau bâtiment, on planifie, ah ben là, il ne faut pas oublier que la toiture va être à changer dans tant d'années, il va falloir qu'on mette tant d'argent d'entretien pour telle affaire, changer les fenêtres. Il faut réfléchir à ce genre de choses-là. En ce moment, à la ville, là, ce n'est pas... Tranquillement, ça s'en vient, là, mais j'ai vu des choses, je veux dire, je ne pouvais pas croire ça là, quand je suis arrivée à la ville de Sherbrooke. On ne planifie pas, là, tu sais, je reviens beaucoup là-dessus. Là. même l'Université de Sherbrooke a des plans d'investissement sur 10, 20, 30 ans. À la ville, on planifie même pas sur 3 ans. La loi nous oblige à planifier sur 3 ans. On prend un document, on met des chiffres dedans, puis on dit que c'est une planification sur 3 ans. Quand tu regardes les chiffres, je parlais qu'on est capable d'avoir des investissements d'à peu près 70-75 millions de dollars par année. La première année, c'est toujours respecté parce qu'on n'a comme pas le choix. Mais la deuxième puis la troisième année, le dernier plan triennal qu'on a adopté, là, la deuxième année, balançait pas de 55 millions de dollars. La troisième année, balançait pas de, je sais pas, une trentaine de millions de dollars. On est comme pas capable de faire des choix. Le monde, ils veulent qu'on répare toutes les rues, ils veulent qu'on ait des nouveaux arénas, qu'on ait ci, qu'on ait ça. Puis vu qu'on veut, on est des politiciens, puis qu'on est capable, tu sais. Fait que là, on fait de la gestion à court terme. On regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire pour la prochaine élection, puis on regarde pas à long terme. Alors que quand on se contraint nous-mêmes à prendre des décisions pour le long terme, ça nous oblige à prendre des bonnes décisions en matière environnementale et en matière de gestion des finances publiques. Une ville, c'est quelque chose qui a une durée de vie pratiquement infinie. On est capable de se dire comme, OK, ça va être sur un projet sur 30 ans, ça va être un projet sur 75 ans. Tu sais, quand on construit un pont, des fois, c'est des choses comme ça.
Oui, mais oui, puis la planification, ça fait que la décision qu'on va prendre, elle va être presque tout le temps plus optimale. Tu sais, le niveau de risque est beaucoup plus faible de se tromper puis de faire comme, oh, finalement, ça a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on pensait parce qu'on réfléchit à l'avance. Puis en tout cas, selon moi, c'est primordial. Là. Puis je pense que les personnes qui vont nous écouter, je suis pas mal certaine qu'elles diraient la même chose là, par rapport à ça. Là. Surtout au niveau des crédits de taxes avec ce qui s'est passé. Là, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Là.
Exact. Ça va prendre quelqu'un à la mairie, puis en général, des élus à l'hôtel de ville qui sont prêts à prendre des décisions courageuses. Puis des fois, ben c'est ça, on n'a pas la bonne personne à la bonne place. Des fois, on est obligé de dire non à un projet pour. Et puis, c'est pas grave, il faut juste l'expliquer. Tu sais, je veux dire, si on est plus transparent, si on rend des comptes à la population, les gens sont intelligents, il faut respecter l'intelligence des gens.
C'est du respect, là. La reddition de comptes, là, c'est. Parce que c'est ça, c'est nous qui payons les taxes, là, en bout de ligne, là. Et c'est exactement ça. J'avais pas d'autres questions. Puis on déborde déjà dans le temps.
Ouais.
Peut-être en terminant, si tu avais un mot à dire aux personnes étudiantes, parce que ça va être principalement eux qui vont nous écouter, je crois. Donc, je te laisse la parole.
Pour les étudiants et étudiantes, je dirais que, je vais le répéter encore, l'environnement, c'est au municipal que ça se passe, mais le reste aussi, le vivre ensemble, ça se passe dans les communautés, le développement économique, tous les enjeux qui nous tiennent à cœur, ça se passe au municipal. Et là, en 2021, on a une occasion unique à Sherbrooke, quelque chose qu'on voit pratiquement jamais. La moitié des élus du conseil municipal ne se représentent pas. Il y a, en 2021, s'il y a une seule élection à laquelle vous devez vous investir, c'est celle de 2021 au municipal, parce que on a l'opportunité de marquer un changement pour les prochaines années. De choisir l'oreille qui va nous écouter, de choisir la voix qui va nous représenter. Parce que oui, c'est possible de se sentir représenté comme étudiant et étudiante à l'hôtel de ville de sa ville. En ce moment, là, vous les regardez probablement comme des personnes complètement déconnectées de votre réalité. Mais si vous prenez la peine de vous mobiliser, que vous allez vous investir dans la campagne électorale puis voter à l'élection, là, en 2021, là, il pourrait y avoir des gens à l'hôtel de ville qui vous ressemblent. Puis ça, on ne le sait pas quand est-ce que ça va se reproduire. C'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité-là. Puis après ça, le message que j'aurais à vous dire en général, engagez-vous dans votre communauté. S'engager, oui, à l'Université de Sherbrooke, mais aussi dans votre ville. Il y en a combien des organismes communautaires qui attendent juste ça, de pouvoir bénéficier de votre apport. Il y en a combien des boisés à protéger, des quartiers à animer. C'est faites-le. Demandez-vous, là, y a-t-il quelque chose qui pourrait faire en sorte que mon milieu de vie soit plus agréable? S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. La communauté attend juste ça des gens qui veulent s'engager pour le bien-être à long terme.
Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Merci.
Merci, Eliane.